Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, le magazine consacré à l'actualité musicale toulousaine et régionale. Une émission entièrement dédiée chaque semaine à ce que Toulouse et notre région proposent dans le domaine de la musique classique et de l'opéra. Vous savez que les propositions ne manquent pas, c'est peu de le dire. Nous allons revenir dans quelques instants sur les concerts de la semaine dernière, puis nous regarderons ce que l'agenda de la suivante nous réserve en seconde partie de ce numéro. À mes côtés, pour commenter l'actualité musicale passée et à venir, les mélomaniacs qui ont accepté de participer à cette émission. Tout d'abord, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale du journal La Dépêche. Elle est accompagnée d'Hubert Stocklin, contributeur du site Classic News et chroniqueur musical pour le site Culture 31. Dans ce studio également, notre invité du jour, Emmanuel Gaillard, directeur d'Audi Sud, pour évoquer avec nous les deux représentations d'Anacréon et Actéon, les opéras de Rameau et Charpentier, les 22 et 23 septembre dans la salle qu'il dirige. Bienvenue aussi à tous les trois et merci d'avoir répondu à l'invitation de Mélomanie. Nous allons tout de suite nous replonger dans l'actualité de la semaine écoulée pour la première partie de cette émission.
Mélomanie, retour arrière.
Et pour ce retour sur l'actualité récente, nous allons nous projeter immédiatement dans le beau département de l'Aude où ont eu lieu du 1er au 10 septembre les pages musicales de La Grasse. C'était la troisième édition de ce festival organisé dans un des plus beaux villages de notre région, cette petite cité médiévale de La Grasse dans les Corbières sur les bords de l'Orbieux. Hubert Stocklin, vous avez assisté à plusieurs des concerts programmés et vous teniez à nous faire part de vos impressions. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter ce festival dont le directeur artistique n'est autre qu'un certain Adam Laloum, le jeune et talentueux pianiste toulousain récompensé aux dernières victoires de la musique classique?
Oui, je voudrais vraiment dire que ce festival est peut-être un festival pas comme les autres, parce que c'est vraiment un festival de musique de chambre, monté un peu à la manière du festival de Prades, où il y a des artistes qui sont là pour plusieurs jours, qui donc jouent un trio, un quatuor ou une sonate, un jour, une autre le lendemain, et chacun peut comme ça vraiment jouer ce qu'il aime, avec qui il aime, et on a un partage amical et musical vraiment au sommet. Adam Laloum nous a réservé un festival où vraiment il fait venir des amis, ça se voit, ça s'entend, de très jolis violonistes, altistes, des pianistes, enfin c'est une vraie merveille. J'ai pu assister qu'à deux concerts parce qu'il faut un peu d'organisation pour partir à La Grasse. C'est peut-être la chose à dire, c'est que c'est un voyage dans une musicalité raffinée, certes, mais également une très belle région. Quand on prend sa voiture pour aller là-bas, les routes sont merveilleuses. Il faut prendre le temps, on ne peut pas se stresser. Et donc c'est le petit problème, c'est que ce n'est pas à côté de Toulouse tout à fait, c'est dans la Grande Occitanie, donc il faut un peu de temps. Donc oui. Moi, je me suis régalé. J'étais à K2 concerts cette année, mais je me promets d'y aller beaucoup plus l'an prochain. J'ai également beaucoup aimé ce festival parce qu'il y avait de l'orgue, un très bel instrument, et qu'il y a deux petits morceaux d'orgue, hein, pour commencer, hein, à chaque partie.
Oui, parce qu'il faut préciser le lieu.
Alors, le lieu donc,
où se déroulent ces concerts.
C'est cette église Saint-Michel qui n'est pas l'abbaye, parce qu'il y a une belle abbaye à La Grasse, hein, une abbaye cistercienne, mais ce n'est pas dans l'abbaye que se tiennent les concerts, c'est dans l'église, qui est une église très agréable au niveau acoustique, en tout cas, pour la formation de musique de chambre et l'orgue.
Et où il y a ce bel orgue.
Donc c'est un
très utilisé à chaque concert, je crois.
Alors oui, c'est un orgue de Théodore Puget, qui était donc une maison très connue au niveau toulousain et en France. Et cet orgue a été installé à La Grasse. Et donc je crois qu'il y a beaucoup de joie aussi pour les habitants de La Grasse d'entendre cet orgue sonner.
Donc musique de chambre uniquement,
de Mozart à Messiaen. Pour faire dans les M, mais vraiment, c'est donc on part du Mozart le plus charmant de trio, de sonate, et jusqu'à donc le quatuor pour la fin des temps de Messiaen, qui est quand même une œuvre assez exceptionnelle.
Y compris la musique d'orgue, même période.
Alors, musique d'orgue, il y a beaucoup d'improvisation, en fait. Ce qui est très intéressant, c'est que l'organiste Thomas Hospital est capable d'improvisation virtuose et exceptionnellement musicale, dans le sens où il mélange des thèmes, par exemple de Wagner avec des thèmes de Verdi. Il peut faire des choses comme ça qui passent de l'un à l'autre. C'est exceptionnel, vraiment. Exceptionnel.
Alors, je voudrais qu'on dise un mot d'Adam Laloum, parce qu'il est, il est présent à tous les concerts, non seulement le directeur artistique, mais il donne de sa personne, il joue.
Absolument. Pour... Il organise donc, les rencontres entre des amis musiciens. Il y a des gens qui ne se connaissaient pas visiblement, mais qui prennent un plaisir fou à jouer ensemble. Et puis, il est aussi un extraordinaire tourneur de page. Parce que voir Adam Laloum à côté de Tristan Rès, qui lui tourne les pages, qui l'encourage, qui est avec lui, qui joue, c'est extraordinaire. Et également, Thomas Hospital a tourné les pages, il y a le Vianois aussi. Enfin, c'est extraordinaire de voir cette simplicité. On est avec les copains, on les voit attendre, écouter avant de jouer. Enfin, c'est très, très beau. Et le public est très respectueux et très attentif. Il y a une qualité de silence que j'ai beaucoup appréciée. Enfin, voilà, je me suis régalé, vous l'avez compris.
Oui, et vous avez assisté à deux concerts. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur les programmes que vous avez entendus?
Alors, les programmes que j'ai entendus, c'était une fantaisie de Mozart pour orgue, très très limpide et très clair, donc qui faisait une très belle introduction. Puis la première sonate pour violoncelle et piano de Brahms, avec Adam Laloum et Yann Levionnois. Alors, une petite chose, c'est que Adam Laloum a constitué un trio avec Victor-Julien Laferrière comme violoncelle, qui a gagné un prix, le prix de la reine
Elisabeth
de Belgique, et qui, après cet extraordinaire challenge, a eu besoin de se reposer. Donc, il n'a pas pu participer à ce festival. Et c'est Yann Levionnois qui a tout repris. Donc, il y a eu des petits changements de programme. Par exemple, on aurait dû avoir la deuxième sonate de Brahms, on a eu la première, parce qu'il a tout appris dans une générosité amicale et musicale fantastique. Il a repris tout le programme de son collègue et ami. Et donc, on a eu après des pièces de Webern pour violoncelle et piano, qui sont, disons, plus difficiles d'écoute parce que plus extraordinaires et éloignées des constructions classiques. Et alors, ce qui marche peut-être le mieux, c'est les trios. On a eu le premier trio de Mendelssohn. Et il faut reconnaître que la connivence entre les artistes marche très très bien en trio. Et le lendemain, c'était le Quaterstat de Mahler. Alors je peux dire aussi que les heures ayant changé, je n'avais pas vu que c'était à 18h30, donc je ne l'ai pas entendu celui-là, mais on m'a dit que c'était merveilleux. Et je n'ai eu que la deuxième partie. Donc Robert Schumann, L'amour et la vie d'une femme, par Marie-Laure Garnier, soprano, Tristan Rès, piano. Toujours Thomas Hospital qui fait ses improvisations à l'orgue, et c'est là où on a eu le passage entre Wagner, Verdi, des choses extraordinaires qui nous amenaient vers Schumann. Enfin, c'était merveilleux. Et alors le quatuor pour piano et cordes de Schumann, avec Tristan Rès, Marie Schillim en alto et Charlotte Julliard au violon, et Yann Levinois au violoncelle. Mais alors ça justifiait de faire le déplacement. Il y avait une énergie, une beauté des musiciens et de ce qu'ils faisaient.
On a compris que vous êtes encore sous le charme.
Voilà.
Alors, je voulais juste dire un mot. Il y a eu aussi, le mardi 5 septembre, un concert avec le trio Les Esprits. Trio Les Esprits formé par Adam Laloum au piano, Victor-Julien Laferrière au violoncelle et Missaillant au violon. Pourquoi j'en parle? Mais parce qu'ils se produiront cette année à plusieurs reprises au Théâtre Garonne.
Voilà.
Et que nous aurons l'occasion d'y revenir dans cette émission.
Parfait.
Alors moi, de mon côté, je souhaitais parler d'un concert auquel j'ai assisté mardi, celui que donnait le trio Zadig à Saint-Pierre-des-Cuisines, un trio formé par trois jeunes musiciens, le violoniste Boris Borgolotto, le violoncelliste Marc Gérard Garcia, tous deux Toulousains, amis d'enfance, je crois qu'ils se connaissent depuis l'école primaire, ces deux-là, formés au Conservatoire de Toulouse, puis au CNSM de Paris. Le troisième de la bande, c'est un Américain, le pianiste Ian Barber, lui ancien élève d'André Watts à l'université d'Indiana. Ce trio a déjà été récompensé par une dizaine de prix internationaux et il a joué un peu partout dans le monde. Ce sont donc un peu plus que des talents émergents de la musique de chambre. Je pense qu'ils sont vraiment dans les traces d'un autre trio fameux, le trio Wanderer. Pour ma part, je les ai découverts à l'automne dernier. C'était lors du festival Musique au Palais, dont la prochaine édition a lieu d'ailleurs. Je signale au passage, les 25 et 26 novembre prochains, ils avaient interprété à l'époque un programme russe et ils ont récidivé à Saint-Pierre-des-Cuisines mardi en jouant le trio à la mémoire d'un grand artiste de Tchaïkovski et le trio numéro 2 de Chostakovitch. Je dois dire que j'ai encore été frappé par la complémentarité de ces trois musiciens qu'on sent unis par l'amitié et le respect jusque dans la musique. Il y a dans ce trio un équilibre, un mélange de densité, d'énergie, de nuances et de profondeur dans l'exécution, tout entier au service des œuvres qu'ils interprètent. On dit parfois que des musiciens sont habités par la musique. Eh bien moi, je dirais plutôt du trio Zadig qu'il habite, la musique qu'il joue. À l'entracte, ma voisine me faisait remarquer que les trios de Tchaïkovski et de Chostakovitch racontaient des histoires et que ces trois musiciens étaient de magnifiques conteurs. Eh bien, pour illustrer ce que je viens de dire, je vous propose d'écouter maintenant le trio Zadig dans un extrait du deuxième trio de Dimitri Chostakovitch. Il s'agit du Largo, le troisième mouvement. le troisième mouvement, l'Argo, du trio numéro 2 de Dimitri Shostakovich, interprété par le trio Zadig, la seconde œuvre au programme du magnifique concert qu'il a donné mardi à Saint-Pierre-des-Cuisines. Je vous voyais tous écouter ça religieusement et manifestement en appréciant. Quelques mots peut-être sur cette interprétation.
C'est très habité, effectivement, on sent qu'ils ont des choses à raconter. Et on se sent pris par leur façon d'interpréter.
Vraiment. C'est magnifique. Ouais.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de les entendre à Toulouse? Parce que ce sont des Toulousains, en tout cas, les deux tiers du trio.
Je pense, mais je n'en ai pas souvenance précise, sans doute, peut-être. De toute façon, j'adore Shostakovich. Et je pense que c'est un compositeur qu'on est en train de découvrir vraiment, pour avoir dit qu'il avait été trop associé à un certain régime, mais on se rend compte qu'il a au contraire essayé de passer au travers de toutes les censures possibles ou autres, et que dans sa musique il y a des choses qui arrivent à sortir quand même, et qui sont parfois ironiques, parfois très douloureuses. En même temps, c'est une sorte d'expression de tous les drames de l'Union soviétique à une époque, de la guerre ou autre. C'est vraiment, je trouve, une musique très habitée en fait, et qui est loin d'être, comme on l'a dit un petit peu trop, en Europe de l'Ouest, académique ou un peu trop classique, disons, par rapport, c'est vrai, à la musique atonale qui avait ouvert d'autres horizons. Mmh. Je crois qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il fut à la fois un grand symphoniste, 15 symphonies, de la musique de chambre, dont on vient voir, bien entendre.
C'est
vraiment un très grand compositeur, et cette œuvre est poignante.
Voilà, alors l'interprétation était magnifique, je pense que vous êtes d'accord avec moi, et puis ça met aussi une fois de plus encore en évidence l'excellence de la formation musicale toulousaine,
hein, parce que on a vraiment de la chance,
hein. on peut citer
Pépinière au conservatoire.
On parlait d'Adam Laloum d'ailleurs, je crois.
Madame Laloum,
dire quelques mots sur Adam Laloum.
Il est exceptionnel, ce garçon. Effectivement, lui aussi est toulousain, mais c'est un très 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 grand talent. Oui.
Déjà récompensé meilleur soliste, hein, victoire de la musique classique, alors qu'il est tout jeune. Il n'avait pas 30 ans, Adam Laloum.
Je crois qu'il vient juste autour de 30.
Il les a là.
Il vient d'avoir les 30 ans. Voilà. Je précise que le concert qu'ont donné les musiciens du trio Zadig à Saint-Pierre-des-Cuisines mardi a été filmé et qui sera diffusé, pour ceux que ça intéresse, sur la chaîne Mezzo le 18 janvier prochain. Après ce détour par la musique de chambre grâce au trio Zadig, nous allons maintenant revenir sur les concerts de piano jacobin de la semaine dernière. Anne-Marie Chouchan, vous avez assisté à certains d'entre eux, moi aussi d'ailleurs. Alors vous, notamment celui de Mariam Batirjvili samedi dernier, et celui de Juliana Steinbach mardi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Toutes les deux, ce sont deux très belles découvertes, puisque cette année, je trouve que le festival piano jacobin, il y a quelques grands noms, mais il y a surtout beaucoup de découvertes, et des découvertes qui sont vraiment des découvertes, je veux dire, qui sont des jeunes artistes qui ont des qualités, plus que des qualités, non seulement techniques, mais déjà d'interprètes, pas simplement de la technique pour la technique, etc. Et donc la petite Mariam Batirjvili, c'est difficile à dire, qui est d'origine géorgienne, elle n'a que 23 ans, et qui a consacré un récital à des œuvres de Bach, mais revues par Marcello et Busoni, du Chopin, et surtout révélé au public une compositrice française qui s'appelle Mel Bonis, qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle, et qui a écrit des petites pièces qui sont des miniatures magnifiques, très évocatrices, poétiques, et que la pianiste Mariam a interprétées, je trouve, avec à la fois de la délicatesse, mais en même temps un sens aussi du récit, mais en même temps de la poésie, enfin vraiment un grand talent. Elle a terminé par la terrible, après une lecture de Dante de Franz Liszt, là elle a montré qu'elle avait une technique fabuleuse, mais pas que ça. Elle est toute mince, fine, elle est en tailleur pantalon, très discrète, et une jeune femme qui, je pense, a un grand avenir.
Alors vous parliez de Mel Bonis, de son vrai prénom, Mélanie Bonis, hein, voilà. Contemporaine effectivement de Debussy.
Ils étaient au conservatoire ensemble.
Voilà. Tout à fait, ils ont été condisciples au conservatoire à Paris. Et je vais vous demander si vous la connaissiez, Emmanuel
non.
Gaillard.
Et,
moi, j'ai eu la chance de connaître par une biographie son œuvre, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à entendre ce qu'elle écrit. C'est vraiment très intéressant.
C'est charmant. Hein,
mais il y a parfois des choses même profondes, et c'est pas que charmant. Non. Justement, on voudrait la mettre dans le côté charmant. Ce n'est pas que charmant. Il y a des choses très profondes. Et elle a quand même été de ces femmes qui n'avaient pas le droit de composer parce que c'était d'un milieu social où c'était interdit de composer. Donc elle a été très bridée, en fait, socialement, même si elle s'en est affranchie. Mais elle a eu des moments difficiles avec son mari et sa famille parce qu'elle ne devait pas signer ses œuvres.
Mais je pense qu'elle a même dû se bagarrer lorsqu'elle était adolescente pour prendre des cours.
Ah non, mais bien
tout sûr. Simplement, quoi.
À rentrer au conservatoire, une femme femmes pour prendre à des cours. À cette époque, ouais. Il n'y avait pas beaucoup.
Anne-Marie Chouchon.
L'une des pièces qui a été jouée ce soir-là là, s'appelle La cathédrale blessée. C'est une œuvre superbe d'émotion, voilà, d'intériorité. Et c'est vrai que, bon, ben, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle a créé, elle a créé. Ouais. Parce que tout à l'heure, je parlais de Shostakovitch. Il ne suffit pas aussi, malheureusement pour nous, de dire qu'on a la liberté pour être génial. Et que des gens qui ont dû affronter des difficultés terribles dans d'autres époques, c'est le lot de tous les, même les grands compositeurs, ont fait des œuvres incroyables. Bon, alors c'est vrai que, et la petite Mariam
Batsashvili,
vraiment est une jeune pianiste à suivre. Puis alors l'autre, c'est Juliana Steinbach, qui est brésilienne, qui vit en France, franco-brésilienne, ouais, qui vit en France et qui s'est présentée au public avec son bébé qui va naître dans 15 jours peut-être, avec un cran incroyable. Elle a joué l'intégrale des préludes de Debussy, qui est un répertoire qu'elle connaît, qu'elle aime, qu'elle a enregistré, et avec un cran, et en même temps elle a à la fois de la puissance. C'était pas un Debussy vaguement impressionniste, un petit peu du bout des doigts. Elle s'engage, elle joue ça avec de la force et de la puissance aussi. Et puis en même temps, elle en tire beaucoup de poésie, aussi une grande recherche sur les timbres. Et elle a été acclamée, et même dans son état, elle a offert 5 bis. 5 bis avec des retours sur la scène, puis après elle a signé des disques. Enfin, une jeune femme qui ne manque pas de cran et qui en même temps est une grande pianiste, je pense.
J'avais chroniqué Colbert, hein, il y a quelques années, je n'ai pas la date en tête, son premier disque... Debussy, et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est la manière dont elle arrivait à justement vivifier Debussy, qui parfois est effectivement, ouais, comme le disait Anne-Marie, désincarné et subtil, fumeux, je dis les mots comme je les entends, et elle avait une façon d'incarner, et puis les préludes c'est pas si facile, et de mettre des éléments de danse et de rythme. Je me suis dit que son côté sud-américain,
ce que j'allais dire,
elle en avait fait quelque... C'était peut-être ça qui m'avait le plus frappé, la manière dont elle se saisissait des rythmes de Debussy et qu'elle les mettait en évidence. Avec évidemment une couleur, des nuances au disque, hein, qui sont très très belles. Et j'ai regretté de ne pas pouvoir l'entendre.
C'était exactement
ce
le cas de ce récital. C'est voilà, tout à fait ce que j'ai ressenti. Ah. Et ensuite, elle a d'ailleurs joué parmi les bis, elle a joué du Villa-Lobos avec les couleurs, mais le rythme dont vous parliez, qui était présent chez Debussy. Mais cette femme, elle a vraiment, c'est vrai, beaucoup de qualités qui sont ce mélange de force, de puissance, et c'est vrai aussi de sens des couleurs, du rythme, et en même temps de l'expression. Et elle vient de signer un disque là, toujours à Debussy, et je crois qu'elle a un avenir. Elle arrête ses récitals quand même. Là, c'était son dernier récital avant la naissance.
Il faut peut-être penser.
Elle reprendra.
Elle a un grand récital qui l'attend prochainement.
Voilà. Oui, voilà. Un autre récital.
Prélude à la naissance. C'est magnifique.
Exactement. Et elle reprendra.
J'espère qu'elle n'aura pas donné trop de la voix quand même. J'espère dans ces circonstances.
Et elle reprendra ses activités début de 2018. Voilà, pour terminer.
Bon, alors, Mel Bonis, Mariam Batsashvili et Juliana Steinbach, vive les femmes à Piano Jacobin. Ouais. Et Piano Jacobin, il va en être encore question lors de la seconde partie de cette émission, puisque le festival se poursuit jusqu'au 29 septembre et qu'il y a encore quelques concerts dans l'agenda de la semaine prochaine. On se retrouve dans quelques instants pour en parler. A tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
La seconde partie de Mélomanie avec nos trois invités, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale du journal La Dépêche, Hubert Stocklin, contributeur du site Classic News, chroniqueur musical du site Culture 31, et Emmanuel Gaillard, directeur d'Audisud.
Mélomanie. L'agenda.
Et dans l'agenda de la semaine, il y a entre autres de l'opéra baroque français, chose qui n'est pas si courante. Bonne raison pour s'y intéresser de près. Anacréon de Jean-Philippe Rameau et Actéon de Marc-Antoine Charpentier sont programmés les vendredis 22 et samedi 23 septembre à 20h30 à Audi-Sud. Deux courts opéras donnés à la suite lors d'une même soirée. Ça, c'est aussi un point particulier dans une mise en scène et une scénographie de Patrick Abéjean et sous la direction de Stéphane Delinca, qui dirige la compagnie À bout de souffle. Emmanuel Gaillard, vous les aviez déjà programmés Audi-Sud en 2012 lorsqu'ils avaient créé Platé. Déjà, Jean-Philippe Rameau, vous les avez de nouveau reçus en 2014 pour The Fairy Queen de Purcell. Oui. On peut dire qu'il y a, si ce n'est un compagnonnage, en tout cas une grande confiance de votre part pour le travail et les créations de cette compagnie. Alors, c'est quoi la marque de fabrique À bout de souffle ? Qu'est-ce qui vous attire dans leur univers ?
Alors, d'abord, À bout de souffle, c'est une énergie incroyable développée par Stéphane Delinca, qui est un garçon donc, qui a la trentaine, voilà, toulousain lui aussi, formé ici, et qui a eu l'intuition, l'envie et la folie aussi de monter des opéras avec sa compagnie. Alors sa compagnie, il faut en parler, c'est d'abord un chœur amateur de très très bon niveau, une cinquantaine de chanteurs, tous évidemment de ce territoire, très bon niveau, et puis qui bossent pendant un an et demi. Ils apprennent les partitions absolument par cœur pour pouvoir ensuite être complètement disponibles à la mise en scène. Mais pour des très bons chanteurs amateurs, ce n'est pas comme le chœur du Capitole dont c'est le métier. C'est un engagement et un travail de très longue haleine. Après, À bout de souffle, c'est également un metteur en scène. C'est Patrick Abéjean, donc, qu'on connaît bien ici à Toulouse.
Il est bien connu dans le milieu théâtral aussi.
Hein. Qui est bien connu dans le théâtre et dont la finesse et aussi la causticité, sans avoir l'air d'y toucher, voilà, avec beaucoup de créativité, de finesse. Donc lui, il signe la scénographie et la mise en scène. Et puis bien sûr, Stéphane s'est entouré de magnifiques musiciens baroques qui presque tous sont passés par le Conservatoire de Toulouse et qui sont tous dans les meilleurs ensembles internationaux des arts florissants, de Minkowski ou d'autres grands chefs baroques et grandes formations européennes. Donc c'est la fine fleur de la jeune génération des baroqueux européens. Ils ont tous la trentaine, ils sont super doués. Donc on a un orchestre top niveau. Et puis il faut aussi parler des solistes. Là aussi, c'est production toulousaine de très haut niveau, puisque c'est rien moins que Aurélie Fargue qui a triomphé d'ailleurs au Capitole et un petit peu partout dans le rôle-titre l'année dernière, Anne-Marie et des mois, c'était la tournée des théâtres lyriques de France, vous savez, avec les jeunes chanteurs.
Et c'est la tournée. Les Caprices de Marianne.
Les Caprices de Marianne, voilà, j'y arrive. Elle était donc dans le rôle-titre, donc c'est elle qui sera la soprano de cette production. Laurent Labarbe, qui est un fantastique basse, qui se trouve être dans les chœurs du Capitole, mais qui a un niveau, un abattage scénique, une voix phénoménale. Et puis le ténor, les ténors, c'est rien moins que Paul Crémazy et Omar Benalal, tous deux qui ont des vraies carrières internationales. Et puis une très belle mezzo, Hélène Delalande. Donc on a une distribution magnifique.
Alors, est-ce qu'il donne toujours dans l'opéra baroque nos amis d'À bout de souffle, ou est-ce qu'il digresse un peu parfois ?
Ils se sont fait une spécialité des opéras baroques, mais ils ont aussi des productions dans d'autres répertoires. Mais c'est vrai que là, ce qui fait leur marque de fabrique, c'est, voilà, vous l'avez dit, Fairy Queen, Platé de Rameau, et maintenant Rameau, Charpentier, deux œuvres, deux opéras en un acte, assez peu connus, je dois dire. Ce ne sont pas des tubes, mais ce sont des bijoux absolus de finesse musicale et puis d'une dramaturgie, d'une histoire. Voilà.
Alors, on va en parler, on va rentrer un peu dans le détail de cet Anacréon, de cet Actéon. Je voulais juste donner la parole quelques instants à Hubert Stocklin, qui avait vu le Platé il y a quelques années.
J'étais allé un petit peu dubitatif en me disant, quand même, Platé, il faut une voix fantastique. On a tous en tête, enfin, moi j'avais en tête la version de l'Opéra de Paris avec Minkowski et par exemple de Lunch qui jouait la folie. Et alors j'ai été absolument charmé par la qualité des chœurs qui, alors contrairement à ce qui se passe dans les chœurs professionnels où c'est une certaine génération, là il y avait des très jeunes chanteurs, des adolescents et des gens très âgés, et ça faisait une véritable humanité, c'était la vraie humanité du chœur qui était le chœur spectateur, le chœur qui faisait avancer l'action, et les chanteurs étaient tout à fait épatants. Mais comme le disait Emmanuel Gaillard, c'est vraiment l'orchestre qui donne une énergie, et c'est la direction de Stéphane Delinca qui pousse tout ça. Mais je peux peut-être quand même dire que effectivement, À bout de souffle, c'était l'an dernier, on s'était joint avec le chœur Toulouse-Garonne pour jouer à la Halle au Grain du Poulenc. Donc c'est quand même très éloigné en apparence du baroque, parce que Poulenc est assez coquin. Mais il y avait le Stabat Mater et le Gloria de Poulenc qui avaient été joués à la Halle au Grain.
Merci donc pour ces quelques mots sur le platé de la compagnie À bout de souffle il y a 5 ans à Audisud. On revient à l'actualité. Et l'actualité, c'est donc Anacréon de Rameau et Actéon de Charpentier. Qu'est-ce qui s'y passe dans ces opéras baroques français?
Bon, d'abord, évidemment...
Il y en a qui n'est pas très gay, hein, quand même. Hein.
Oui, non, ça reste quand même de l'ordre de la fable dans un cas et du divertissement dans l'autre. Alors, Anacréon, très clairement, c'est un divertissement sur l'amour. C'est même un débat philosophique, une petite bagarre entre Bacchus et Vénus. Alors, faut-il s'enivrer, faut-il aimer? La réponse, la chute, on la connaît un petit peu, on peut s'en douter, on la pressent. Mais en tout cas, il y a ce débat et évidemment, c'est une fantaisie. Ce sont donc des fantaisies, presque des comédies musicales de l'époque baroque au fond, parce qu'il y a une légèreté, il y a une finesse. Il y a une finesse. Alors l'orchestration, évidemment, de Rameau, c'est un régal absolu. Mais comme toujours avec Rameau, c'est d'une créativité, d'une inventivité folle. Et puis les airs sont absolument somptueux. Et le chœur lui-même aussi a beaucoup d'importance. Il y a des coups de théâtre. Donc tout ça en 45 minutes, c'est des opéras de poche. Mais il y a de la dramaturgie.
C'est très dynamique.
Ça avance, ça va vite. Et voilà, des alternances d'airs comiques et de bagarres et d'orages, puisqu'il y a toujours l'orage qui arrive, la tempête, etc. Donc fait partie des opéras baroques.
On regarde le genre, c'est pas marqué opéra, c'est marqué acte de ballet.
Ouais, c'est oui, c'est ça, il y a la danse, et c'est très très lié à tout ça. Ouais.
Est-ce à dire qu'il y a aussi de la danse sur scène pour la production d'À bout de souffle?
Absolument. Alors il y a effectivement deux danseurs, il y a une chorégraphie qui sera pas exactement tout à fait baroqueuse, mais on n'a pas vu encore le spectacle. Ce qu'on sait, c'est plutôt des danseurs qui ont une sensibilité contemporaine, donc qui vont ajouter une touche, dont on ne peut pas encore dire beaucoup plus, puisque c'est en train de se répéter.
Il faut laisser un peu les gens sur la fin.
Un peu de mystère.
Oui,
un peu
bien
de mystère.
Sûr. Alors, ça enchaîne. Dans la foulée, vraiment, les deux opéras Anacréon, Actéon,
il y a un petit entracte. Oui, il y a un petit entracte pour souffler entre les deux, d'autant que c'est comme deux œuvres quand même distinctes, donc il n'y a pas...
Voilà. Donc, il y aura un entracte pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Et donc, Actéon, alors là, c'est Charpentier. Je vais juste préciser les dates, que les gens remettent bien ça dans la temporalité. Hein. Donc, c'est 1757 pour Anacréon. On est deuxième partie du 18e. Charpentier, Actéon, c'est 1684, là on est encore sous Louis XIV.
Absolument. Alors... Charpentier, l'histoire d'Actéon, c'est toujours une fable en fait. C'est un jeune chasseur qui inconsciemment se retrouve changé en cerf par les dieux et même dévoré par ses propres chiens. Donc c'est une fin terrible. C'est une fin terrible. Mais c'est une fable initiatique. Il y en a beaucoup dans le monde de l'opéra. Et c'est une très très belle histoire là aussi. Et puis évidemment, la musique de Charpentier. Charpentier, c'est un trésor absolu. C'est Rameau, évidemment, il est peut-être plus connu, plus aimé encore. Et puis il y a un aspect très saisissant dans la musique de Rameau parce que c'est très percutant, très théâtral. Charpentier, évidemment, c'est somptueux, c'est une rondeur.
C'est des émotions.
Ce sont des émotions, c'est d'une finesse, d'un raffinement absolument exceptionnel. Donc on a la chance d'une double découverte de deux opéras, deux miniatures qui sont des véritables merveilles.
En tout, un spectacle qui va durer, compris à peu près 2 heures, ça va faire à peu près 2 heures.
Oui, c'est ça, c'est 2 heures, c'est 2 fois 50 minutes environ. Et puis voilà, je reviens quand même sur la compagnie À bout de souffle. Donc, monter un opéra, mais enfin, c'est un métier. c'est l'affaire du Théâtre du Capitole, entre autres. C'est-à-dire, c'est un orchestre, un chœur, des techniciens, des solistes, etc. Ouais. C'est 400 personnes, le Théâtre du Capitole, qui travaillent pour accoucher de magnifiques productions. Eh bien là, c'est certes, il y a 80 artistes sur scène. Mais à un moment donné, c'est un tout petit groupe de personnes et c'est notamment ce Stéphane Delinca qui, par son énergie, insuffle non seulement musicalement un espèce de dynamisme parce qu'effectivement, ses interprétations sont extraordinairement vivantes, mais aussi c'est une espèce d'énergie humaine et de production parce qu'en gros, c'est lui qui monte toute la production. Voilà, je fais un peu son éloge parce qu'il n'est pas là, mais effectivement, c'est un tour de force que de monter un opéra dans le standard que doit être celui qui est à Audisud, c'est-à-dire des spectacles de référence nationale ou internationale.
Et puisque vous parlez d'Audisud, je voudrais qu'on parle du travail que vous faites pour mettre en valeur, faire connaître les musiques anciennes dans votre salle depuis déjà pas mal d'années. Il y a les rencontres des musiques anciennes tous les ans au printemps.
Oui, c'est bien ça.
En avril-mai. D'où vient cette volonté Alors, est-ce que c'est une passion personnelle pour les musiques anciennes? Est-ce que c'est aussi le constat que nous avons dans la région la chance d'avoir des ensembles de musique ancienne, de musique baroque de très grande qualité et qu'il faut les faire connaître, il faut leur donner le plateau?
C'est tout ça en même temps. Bon, c'est une passion personnelle, mais que depuis que je suis adolescent, moi, j'aime la musique en général et la musique ancienne en particulier, avec des chocs très importants. Je suis moi-même chanteur amateur, modeste, mais impliqué dans un certain nombre de projets, voilà,
nous savons ça,
qui se sont produits à différents endroits. Bon, mais ça, c'est la dimension personnelle. Au-delà de ça, et plus important, bien sûr, c'est la scène toulousaine, ce qui s'y passe. Or, que constatons-nous? Qu'on a un conservatoire avec des classes de musique ancienne et des ensembles. Il y a à peu près 7 à 8 ensembles de niveau international ou national dans le champ des musiques anciennes, sur Toulouse ou dans la région ex-Midi-Pyrénées. Ce qui est une particularité, nous sommes le territoire le plus riche en termes d'ensembles de très haut niveau. Donc ça, c'est une particularité, sauf que la plupart de ces ensembles ont une difficulté pour se produire dans la ville qui les a vus naître. C'est une particularité et donc ayant constaté cela, c'est vrai que la vie musicale toulousaine est quand même très axée sur le grand répertoire avec l'orchestre, le théâtre et bien d'autres initiatives. Mais sur la musique ancienne, quand je suis arrivé il y a une quinzaine d'années, et ça reste évidemment moins vrai maintenant, il y avait quand même ces ensembles donc avec une difficulté. Ils s'autoproduisaient pour certains d'entre eux. Et puis, quand on s'autoproduit, on n'a pas des moyens de production, des moyens pour montrer des œuvres exemplaires, des productions exemplaires. Donc, je me suis dit qu'Audi Sud avait un rôle à jouer, plutôt en complémentarité des institutions de Toulouse-Centre, pour compléter l'offre. Et donc, nous l'avons fait à la fois dans le domaine des musiques anciennes, mais aussi de la création musicale contemporaine. Voilà. Donc là, concrètement, nous avons une saison de musique ancienne, une saison de musique nouvelle, et puis on a les rencontres des musiques baroques et anciennes qui ont lieu, en effet, vous l'avez dit, en mars et avril, où viendront Jordi Savall, où viendront le chœur Sequenza 9.3, des grandes voix comme Patricia Bovi et d'autres, et qui voisinent avec les meilleurs ensembles de la région, comme Les Passions ou l'ensemble baroque de Toulouse. Voilà.
Alors, Hubert Choquelin, peut-être Anne-Marie Chouchon aussi, vous les suivez, ces rencontres des musiques anciennes, depuis des années?
Oui, oui, depuis des années. Et quand on veut entendre Savall, c'est à Audi Sud qu'il faut aller, par exemple. Hein, oui. Et je me rappelle d'une chose qui m'avait beaucoup, beaucoup plu, c'était les sacs boutiques qui avaient fait le combat de Tancrède de Monteverdi avec des danseurs. C'était extraordinaire,
ah, oui.
Ça. Je crois qu'il faut... Bon, il est là, on peut quand même lui faire des compliments, mais Emmanuel Gaillard nous permet d'entendre et de voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Il faut le remercier parce que vraiment, c'est, ben là encore, hein, et Savall revient, donc voilà, tout est dit.
Et avec
hein.
des nouvelles productions.
Tout est dit, quoi, voilà.
Et avec Les Passions de Montauban, l'ensemble
de Toulouse, Jean-Marc Andrieux, c'est aussi une petite saison à Montauban, mais ils sont très régulièrement à Audi Sud, et c'est un grand plaisir. C'est pas tant qu'ils ont... Ils ont des choses à nous dire et des répertoires intéressants avec des compositeurs oubliés et parfois des compositeurs très connus. Ils sont aussi doués dans les deux, hein. C'est vraiment magnifique.
Et le rôle, effectivement, c'est de faire découvrir des œuvres, enfin, et d'accompagner les ensembles dans leurs projets, y compris les plus ambitieux, parce qu'effectivement, tout seul, ils n'y arrivent pas. Rencontrer le public, avoir une salle, avoir de l'argent en coproduction,
et d'accueillir
en résidence.
Et le public est là, très présent, c'est toujours plein. C'est vrai que c'est très stimulant.
C'est absolument essentiel. Et donc, nous, notre rôle, c'est présenter ce que les ensembles par eux-mêmes ne pourraient pas faire tout seuls, très simplement.
Alors, Emmanuel Gaillard, je voulais nous parler aussi d'un spectacle qui est bientôt Carmen, les 29 et 30 septembre.
Carmen, là, c'est donc plus de la danse. Alors, Carmen, bien sûr, la musique... C'est celle de Bizet, de Chédrine, qui, vous le savez, a fait une suite orchestrale sur les thèmes de la musique de Bizet. C'est d'ailleurs, je crois, un compatriote de Shostakovich. Et on sent d'ailleurs une veine comme ça dans la réécriture de la musique de Bizet, qui est avec un dynamisme incroyable. Toujours est-il que donc ça, c'est la matière musicale d'un ballet donc, qui s'intitule Carmen. L'histoire, tout le monde la connaît. Mais l'interprétation, ce sera celle de la Compagnie Nationale de Danse d'Espagne. Donc, c'est la compagnie officielle de l'État espagnol. Grande compagnie néoclassique, hein, qui se compare avec le Ballet de l'Opéra de Paris, avec les plus grandes compagnies classiques et néoclassiques internationales. Donc, très, très haut niveau. Elle est dirigée depuis quelques années par José Martinez, ancien danseur étoile du Ballet de l'Opéra de Paris, qui lui-même est espagnol, mais évidemment qui a une culture française aussi très affirmée, et qui donc, compte tenu de son expérience à l'Opéra de Paris, continue d'élargir le répertoire de cette très grande compagnie. Et notamment, il a confié les clés de cette Carmen, non pas à un espagnol, mais à un chorégraphe du Nord, un suédois qui s'appelle Johan Inger, très célèbre, très fameux, pas encore trop connu en France, mais c'est rien moins que le chorégraphe du Netherlands Dance Theater et du Ballet Kullberg. Donc l'un des plus grands chorégraphes vivants et qui nous donne une Carmen assez moderne, dans un décorum et une scénographie qui n'est pas sans rappeler évidemment les couleurs de l'Espagne, mais avec une touche de modernité. Il y a des jeux visuels tout à fait surprenants avec des panneaux, des effets de réflexion, un souffle incroyable. Et quand même, cette production a obtenu le Benoît de la Danse en 2016. Le Benoît de la Danse, c'est un peu l'équivalent des Molières en quelque sorte. Donc une production absolument exceptionnelle. Et nous aurons 4 représentations dans la grande salle entre le 28 et le 30 septembre. Et cette compagnie nationale de danse d'Espagne, je crois que c'est ses débuts à Toulouse. Je crois pouvoir le dire parce que ça paraît sidérant. Mais voilà, si Audisud ne programme pas...
Une fois plus, Audisud est là où il faut. Hein.
Mais, c'est bien. Alors évidemment, mais voilà. Et d'ailleurs, on aura l'autre compagnie nationale espagnole, le Ballet National d'Espagne, tout à fait en fin de saison. Ah, donc on aura eu dans la même saison les 2 compagnies nationales espagnoles en matière chorégraphique.
Voilà, alors on va refermer cette large parenthèse Audisud, mais je vais rappeler tout de même avant que Anacréon donc et Actéon par la compagnie À bout de souffle, c'est le vendredi 22 septembre et le samedi 23 septembre à 20h30.
Excusez-moi Eric, c'est aussi à Albi. Pour ceux qui vont le rater.
Effectivement, la scène nationale d'Albi.
J'aurais dû
n'oublions
le signaler.
N'oublions pas Albi.
Oui, le 26 septembre, c'est dans le Grand Théâtre d'Albi à la scène nationale et donc c'est une coproduction d'ailleurs.
Voilà.
Audisud, scène nationale d'Albi. Voilà,
très belle salle d'Albi,
pour ceux qui nous écoutent dans le Tarn ou qui sont voisins d'Albi, même en étant.
Ce sera possible de voir la version
si vous ratez
Saint-Gaudens Audisud, également.
Eh bien, je propose qu'on écoute justement la compagnie À bout de souffle dans un extrait de leur version d'Actéon. Marc-Antoine Charpentier dans l'interprétation de la compagnie À bout de souffle. Alors vous voulez préciser tout de même qu'il s'agit là d'un extrait de répétition.
Hein. C'est un extrait de répétition, donc exclusif pour Radio Présence, mais donc ce n'est pas encore la vraie version.
Oui, puisque
il y a des petites imperfections sonores que vous avez peut-être entendues. En tout cas, on entend l'énergie et puis la finesse et la drôlerie d'ailleurs de ce chœur.
Et évidemment, la création, ce sera le vendredi 22 septembre à 20h30 à Audisud. Alors, on en vient maintenant à l'actualité. Je vais parler piano jacobin. Il y en a une autre, ce samedi 16 septembre, au Théâtre du Capitole. Il y a les journées européennes du patrimoine à Toulouse comme ailleurs. Et entre autres, le Théâtre du Capitole ouvre ses portes. Mais il n'y a pas que la visite du bâtiment, il y a aussi de la musique, Anne-Marie Chouchan.
Oui, cette année, le Théâtre du Capitole innove. Je pense que son nouveau directeur, Christophe Gristy, a vraiment envie d'ouvrir ce théâtre et de l'ouvrir en permanence d'ailleurs. Donc il ouvre pour les journées du patrimoine et il offre en soirée un récital, le récital un jeune ténor d'origine toulousaine qui s'appelle Kevin Amiel, qui fait déjà une jolie carrière en France et qui est né à Toulouse, qui a fait ses études à Toulouse et dans le Gers, et qui donc offre ce récital donc de samedi soir avec des airs qu'il aime et qui sont un hommage aussi à Luciano Pavarotti, qui a été son choc quand il était très jeune et qu'il a un peu déterminé à devenir chanteur. Et il offre donc un récital avec des airs assez célèbres de Bohème, de l'élixir d'amour,
l'Arlésienne,
voilà, de Chilea, qui est une mélodie de Tosti. Et tout ça, c'est gratuit, ouvert au public à 21h et accompagné au piano. Et auparavant, il y aura au Théâtre du Capitole une conférence, aussi également ouverte au public de façon gratuite, sur l'histoire du Théâtre du Capitole. Donc ça introduit un peu la saison future avec ce récital, parce que ce jeune ténor, il paraît qu'il est formidable, qu'il est vraiment plus qu'un espoir du chant français. Et en même temps, il est originaire de Toulouse. Donc c'est à découvrir absolument samedi soir au Théâtre du Capitole.
Alors c'est gratuit, vous l'avez dit. Le Théâtre du Capitole sera ouvert à partir de 19h30, accès libre à la salle, au foyer. Il y a l'exposition de costumes qui est toujours en cours, magnifique, qu'il faut absolument découvrir. Et puis donc à 20h, la conférence sur l'histoire du théâtre du Capitole, et à 21h, le clou de la soirée quand même, je pense, ce récital de Kevin Amiel, qu'on va écouter parce que, bon, vous avez parlé de l'Arlésiana de Chilea. Eh bien, nous en avons un extrait chanté par Kevin Amiel. Voilà donc extrait de l'Arlésiana de Francesco Chilea, interprété par Kevin Amiel. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeune ténor?
C'est déjà très très beau, hein. C'est magnifique.
Il me l'a dit en interview, il y a la question technique, bien sûr, maîtrise du souffle, en fait, tout ce qu'il y a, mais en même temps, pour lui, un chanteur, il doit raconter une histoire et surtout toucher le public, dire quelque chose et pas simplement se contenter de chanter. Seulement, on dit ça aussi quand on peut chanter, parce que le problème, c'est d'arriver d'abord à chanter, ensuite aussi pour pouvoir exprimer quelque chose. Et je crois qu'il a beaucoup de choses à dire et que c'est très beau et que ça vaut la peine de...
Belle clarté de timbre et une belle ligne de chant. Hein. C'est,
oui.
Et puis la lumière du timbre est
voilà,
très belle.
La couleur, hein. Les nuances.
Médium, hein. Médium très sûr. Là, il a 28 ans.
Oui, mais pas engorgé. Hein, comme,
non.
Non,
d'autres. Bah oui, comme d'autres qui font une très belle carrière, qui c'est très beau, mais bon.
il a l'âge qu'avait Roberto Alagna quand il a fait ses débuts à Toulouse, 28 ans.
Et si on écoute attentivement son timbre, on entend des accents à la Pavarotti. Il y a quelque chose de solaire.
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas tout à fait autant d'harmonie qu'aiguë, parce que ça, c'est juste impossible. Mais il y a quelque chose de solaire et il y a quelque chose dans le timbre. À certains moments, c'est assez troublant quand même, dans la manière de chanter.
C'est vrai, mais je crois que c'est son modèle.
En même temps aussi, c'est peut-être plus expressif que Pavarotti. Certainement. Pas toujours
nuancé.
Là, je ne suis pas d'accord avec vous, mais.
Non, je ne l'ai entendu qu'à la fin de sa carrière, dans des concerts qui n'étaient peut-être pas aussi. Voilà.
Je l'ai entendu de nombreuses fois en live. Bon, évidemment, les disques, tout le monde les a, mais après, c'est des questions, évidemment, de sensibilité personnelle.
Il faut voir aussi ce que ça donne sur scène. Sur scène,
c'est
en termes d'incarnation.
Alors, ce timbre solaire était unique. De toute façon, je me souviens de Nessun Dorma qu'il a donné en bis lors de ce concert à Toulouse, au Palais des Sports, l'ancien Palais des Sports. Je devais quitter la salle pour aller vite dicter un papier au journal. Et le Nessun Dorma était si beau que j'étais accroupie et que je suis restée là à l'écouter. J'ai pas pu bouger le temps qu'il finisse ce bis qui était sublime.
Et oui. Merci pour ce souvenir de concert. On va passer maintenant.
Un petit mot, puisque vous parliez de journée du patrimoine. Alors à Audi-Sud aussi, on ouvre la maison et donc il y aura une répétition ouverte justement d'Anacréon et d'Actéon, décidément, ce samedi 16 septembre à 15h. C'est gratuit, c'est dans la grande salle de l'issue et vous aurez droit en avant-première à écouter un peu d'Anacréon et d'Actéon en live.
Les passionnés de lyrique, vous allez à 15h à Audi-Sud pour la répétition.
Et après, vous filez au théâtre du Capitole
pour écouter Kevin Amiel à 21h et profiter de la conférence sur l'histoire du théâtre du Capitole. Un mot, on va terminer l'émission là-dessus sur ce qui nous attend à Piano Jacobin pour la semaine qui s'annonce. Est-ce que vous avez noté des choses à ne pas rater?
Ah oui,
il y a Arkady Volodos, qui est un grand pianiste, grand virtuose, mais aussi plus que ça, qui donc est le 22 septembre au Jacobin. Mais il y a aussi la rentrée de l'Orchestre du Capitole, le 20 septembre, avec Elisabeth Leonskaya, qui a fait un magnifique récital au Jacobin pour l'ouverture du festival, mais qui revient là jouer le troisième concerto de Beethoven avec Tugan Sokiev et l'Orchestre du Capitole. Et c'est dans le cadre de l'enregistrement d'une intégrale
des concertos de Beethoven
par l'Orchestre du Capitole et Sokiev, une intégrale qui va durer, qui est enregistrée en live à plusieurs reprises lors de plusieurs concerts. Ils ont déjà commencé lors d'un concert privé d'Aïda et ils ont donc ils continuent cet enregistrement donc avec Leonskaya qui va donc être toulousaine à plusieurs reprises et au programme du
concert. Il y a la 9e symphonie de Shostakovich qui est une œuvre
dont nous parlions tout à l'heure. Ces symphonies sont très très belles.
On doit beaucoup à Tugan Sokiev dans la connaissance de Shostakovich à Toulouse au niveau orchestral.
De référence.
Moi, c'est ce concert-là que j'attends. Volodos, je suis plus réservé. Je l'ai entendu à la Rock d'Anthéron. Il m'a beaucoup ennuyé parce que c'est un très bon pianiste, mais il fait que du piano. Et dans Schubert, moi, j'attends un peu plus. Donc voilà, je n'irai pas, en tout cas, l'écouter, mais je me régalerai. Moi, c'est Anacréon et l'orchestre. Cette semaine.
Je crois que vous allez également au concert de Julien Brocal.
Oui, alors voilà, parce que j'aime bien aussi aller entendre des pianistes que je ne connais pas, dont évidemment on lit des tas de belles choses sur Julien Brocal, mais je veux me faire mon idée. Et il faut dire que le programme est très beau. Et
justement, je l'ai sous les yeux, le programme que jouera Julien Brocal, donc à 20h au Cloître des Jacobins le mardi 19 septembre. Il y a Chopin, la sonate numéro 2 de Chopin, Carnaval Schumann, et alors il y a Bortkiewicz.
Voilà, alors j'adore, je ne le connais pas, donc je me régale de l'entendre. Voilà. Découvrir un pianiste et une œuvre.
De toute façon, Piano Jacobin dure jusqu'au 29 septembre. Il y a encore de belles découvertes.
Oui, on va
de belles découvertes, parce que même si les noms ne sont pas forcément connus, je pense que l'intérêt d'un festival, c'est aussi de présenter des artistes, de les faire découvrir. Mais il y a aussi, pour la clôture, il y aura Nicolas Angelich, qui est un fidèle des fidèles et qui a commencé sa carrière quand même au Jacobin. Il était tout jeune. Mmh. On l'a découvert là, au Jacobin, et il est revenu à plusieurs reprises. Et puis, il y aura aussi du jazz. Il y aura aussi une soirée de jazz, le 28, avec Chili González, à la Legrain.
On en parlera. Il y a aussi François Dumont, j'aime beaucoup. N'anticipons pas, on reviendra sur tous ces concerts. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus et d'avoir participé à ce numéro. Anne-Marie Chouchon et Hubert Stocklin font partie des chroniqueurs appelés à revenir souvent dans cette émission.
Merci.
Pour nous faire bénéficier de leur lumière. Quant à Emmanuel Gaillard, je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir au printemps prochain pour les rencontres des musiques anciennes à Audisud. En parlant d'Audisud, je rappelle qu'Anacréon et Actéon, les opéras baroques de Jean-Philippe Rameau et Marc-Antoine Charpentier, y sont donnés à la suite la même soirée, les vendredis 22 et samedi 23 septembre à 20h30 par la compagnie À bout de souffle. La direction est assurée par Stéphane Delinca. La mise en scène est signée Patrick Abéjean. Si vous voulez réserver vos places ou connaître tout le détail de la programmation d'Audisud, je vous invite à consulter son site internet www.audisud.com. La régie technique de cette émission était assurée par Christophe Aubry. Vous pouvez réécouter ce numéro en podcast dès aujourd'hui en le téléchargeant sur le site de Radio Présence. Et je précise que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Allez à l'opéra, allez au concert. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine musicale.